Aujourd'hui, la masterclass de Camille Laurence avec Céline Duchesnay.
Nous ouvrons la masterclass de Camille Laurence ici à la Bibliothèque nationale de France. Une masterclass qui a pour objectif de suivre pas à pas le processus d'élaboration de votre œuvre, ma chère Camille Laurence. Donc, comment concrètement vous avez construit vos livres, de l'idée de départ jusqu'à leur achèvement? Mais avant de plonger dans vos secrets de fabrication, je vais quand même rappeler quelques éléments de votre biographie en quelques phrases rapides. Vous êtes née à Dijon en 1957. Vous avez fait des études de lettres. Vous êtes d'ailleurs agrégée de lettres modernes. Vous avez enseigné en Normandie, puis au Maroc, où vous êtes restée pendant 12 ans. Vous publiez votre premier roman Index en 1991 chez POL, qui sera votre éditeur jusqu'en 2007, Gallimard prenant ensuite le relais. Philippe, quelques-uns, dans ces bras-là, prix Femina en 2000, les fiancés du diable, celle que vous croyez, la petite danseuse de 14 ans, pour ne citer que ces quelques titres de votre production littéraire foisonnante, qui mêle à la fois des romans avec une nette tendance à l'autofiction, nous reviendrons bien sûr sur ce thème et ce terme, et des essais où les textes lexicologiques ont la part belle, votre amour des mots étant l'un des fils rouges, je dirais, de votre œuvre. Alors on va commencer justement sur cet amour des mots, Camille Laurence. Est-ce que vous savez d'où il vous vient? Est-ce que, enfant, vous partagez par exemple cet amour des mots avec votre famille?
Non, pas du tout. En réalité, je suis née dans une famille plutôt scientifique. En tout cas, on lisait très peu chez moi. On lisait des romans policiers au mieux. Et la plupart du temps, on ne lisait rien. Et donc, je dirais que le goût des livres m'est vraiment venu de l'école et du collège, du lycée, très très tôt. Et si j'essaie de reconstituer le parcours qui a fait de moi une écrivaine, évidemment, c'est toujours une reconstruction parce qu'au fond, on ne sait pas ce qui se passe dans la réalité. Mais j'ai deux souvenirs. Le premier, c'est à l'école primaire. J'étais dans une école qui, avec le recul, je pense pouvoir déduire qu'elle utilisait la pédagogie Freinet. Et dans cette école, il y avait donc une petite imprimerie. Alors évidemment, les imprimeries à l'ancienne, hein, avec les caractères métalliques. Et quand on avait bien travaillé, eh bien, on avait le droit d'aller écrire un texte de sa composition, de l'écrire et vraiment d'en former toutes les lettres, de l'imprimer et de le signer. Et en fait, je pense que, enfin, j'ai un souvenir extraordinaire de ces moments. Il se trouve que je travaillais très bien à l'école, donc j'allais souvent vers cette petite imprimerie. Enfin, ça a été un éblouissement, parce que je me souviens que la sensation que je pouvais graver finalement, sinon dans le marbre, du moins sur le papier, mes propres mots, et que ces mots m'appartenaient, que je pouvais les signer, c'est mon premier souvenir d'un rapport très concret, matériel, vraiment avec la matérialité de la lettre, de l'empreinte, de la trace écrite, c'est vraiment mon tout premier souvenir. Et puis je dirais qu'il y a un autre souvenir beaucoup plus intime et personnel. C'est quelque chose que j'ai raconté dans un de mes romans. C'est quand j'étais enfant, j'allais en colonie de vacances. J'y suis allée très tôt, j'avais à peine 6 ans. Et je ne savais pas encore écrire. Et il y avait ce moment qui doit toujours exister où... on écrit aux parents. Alors bon, maintenant avec les téléphones, je ne sais pas si ça se fait beaucoup, mais enfin, à mon époque, on écrivait, il y avait la correspondance avec les parents. Et comme je ne savais pas écrire, je dictais ma lettre à une monitrice. Et donc je disais, maman, c'est affreux, je pleure tous les jours, viens me chercher, je n'en peux plus. Bon. Et j'ai retrouvé, c'était une carte postale représentant des vaches. Et des années après, je vais avoir 14-15 ans, j'ai retrouvé cette carte postale que j'avais envoyée par l'intermédiaire de cette monitrice. Et sur cette carte postale, il y avait écrit, signé de mon nom, chère maman, je vais très bien, je m'amuse bien, c'est merveilleux, il fait beau. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, donc je devais avoir 12 ou 13 ans, je me suis dit, voilà, il faut pas que je laisse les autres écrire à ma place.
Est-ce que vous vous souvenez sur les petits textes que vous écriviez sur cette imprimante? Est-ce que c'était des poèmes? Est-ce que c'était des petites phrases? Vous avez un souvenir de cette production?
C'était des petites phrases, des petites phrases poétiques, enfin ce que je considérais comme poétique à l'époque. Donc il devait y avoir des fleurs, des oiseaux, de l'amour.
Mais, très bucolique.
Mais c'était quelque chose de très matériel en fait, de très physique, un rapport très physique au texte.
Vous avez écrit dans un article qui est paru dans Libération 98 que dans votre famille, donc, vous n'étiez pas des littéraires, ce que vous venez de dire, et qu'on ne racontait pas non plus. Vous avez écrit « J'écris parce qu'ils se taisent ». On ne parlait pas de quoi, par exemple, dans votre famille, qui fait que vous avez eu envie de parler?
On parlait de tout et de rien. Mon père, d'ailleurs, se piquait d'être assez moderne dans son éducation, puisque nous avions le droit de parler à table et de parler de tout, théoriquement. En fait, je me rends compte avec le recul que nous parlions plutôt de rien que de tout. Et j'ai toujours eu le sentiment, qui était tout à fait justifié, que dans ma famille, il y avait beaucoup de secrets, les fameux secrets de famille. Et bon, il y avait notamment quelque chose, c'est un autre souvenir qui était le fait que, là encore, à l'école primaire, quand j'arrivais à l'école le lundi, souvent la maîtresse demandait ce qu'on avait fait le dimanche. Et j'inventais complètement, puisque je ne passais jamais le dimanche comme mes petites camarades avec les parents, les pique-niques et les amis. Voilà, parce que mes parents avaient une vie un petit peu particulière, et donc j'inventais, là encore, c'est mes premiers romans, je les ai racontés à l'école aussi. Oui, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait quelque chose derrière les choses, en fait, et j'ai eu envie de découvrir ce qu'il y avait derrière les apparences. Pour moi, ce serait ma première définition de l'écriture. C'est aller voir dessous, aller voir derrière.
Alors ces secrets, ces choses qui ne sont pas dites, vous en avez parlé aussi dans vos romans. Je pense que c'est, je pense aussi, enfin là, ce qui me vient à l'esprit, il y a par exemple l'histoire du grand-oncle que vous racontez. Est-ce qu'on pourrait en parler?
C'est assez difficile d'en parler. Enfin, il se trouve que je me suis rendu compte que j'en parlais dans tous mes derniers romans, et toujours de manière, sinon allusive, du moins très brève. Il s'agit donc d'un abus sexuel que j'ai subi quand j'avais 9 ans de la part de mon grand-oncle, donc du frère de mon grand-père. Et c'est là, alors... Je peux pas dire que c'était un secret, mais simplement c'est fondateur dans la mesure où quand j'en ai parlé à ma grand-mère, elle a dit cette phrase qui a été importante pour moi, parce que ensuite j'ai écrit tout un livre là-dessus. Elle m'a dit: ce que tu viens de me dire, ne le répète jamais. Donc là encore, le secret, c'est-à-dire que le secret, il faut le garder. Et voilà, peut-être que pour moi la littérature, c'est ne pas garder les secrets, oui. Donc c'est une forme de trahison, et puis aussi de transgression, oui, mais je pense que c'est nécessaire.
Et ce que votre mère aussi vous avait reproché après, quand vous en avez parlé, oui, aussi dans vos livres.
Oui, absolument.
Donc dire la vérité ne n'arrange pas tout le monde.
Non, ça je pense que...
Ça c'est pas une grande révélation.
Oui, mais... non, ça n'est pas une grande révélation, non. Non, dans les familles, et là peut-être qu'on en reparlera avec la question de l'autofiction, c'est toujours très difficile et douloureux, certainement, d'aborder les questions intimes, secrètes, des choses qu'au fond, on voudrait voir interdites à jamais.
Est-ce que enfant vous aviez un rapport particulier à la lecture? Est-ce que vous aimiez vous évader dans les livres? Est-ce qu'il y avait des écrivains qui étaient importants pour vous?
Je lisais énormément, mais je lisais vraiment de tout. C'est-à-dire, j'allais à la bibliothèque municipale et je prenais mais tout ce qui me tombait sous la main. C'est-à-dire aussi bien, je sais pas, j'ai pu lire à 12 ans La peste ou La chute de Camus, mais je lisais aussi ces petites collections pour les jeunes filles, là, des espèces de bluettes avec des infirmières et des médecins, ou des princes et des princesses, enfin, Guy Descartes, enfin, je lisais toutes sortes de choses. Et je ne crois pas d'ailleurs que ce soit forcément néfaste, même ensuite quand moi j'ai eu des élèves, parfois je leur demandais de faire des fiches de lecture libres et on ne choisissait pas toujours des livres classiques, même pas souvent. Mais bon, me semble qu'il vaut mieux lire quelque chose qui n'est pas la grande littérature que de ne rien lire du tout. Je pense que le goût se forme aussi petit à petit et que, en ce qui me concerne, dans ce choix très étendu et très divers de lecture, eh bien mon goût s'est affiné.
Est-ce que vous avez eu le sentiment, à un moment donné, toujours peut-être en étant enfant ou peut-être plus adolescente, de sentir que vous aviez besoin d'écrire, que c'était quelque chose qui commençait à devenir peut-être vital ou de plus en plus important ?
Mais c'est assez curieux, parce que quand j'étais adolescente, je tenais un journal intime où je notais les éléments de ma vie, parfois d'ailleurs en les cryptant parce que je soupçonnais que peut-être ce journal allait être lu. Là encore, petit rapport avec l'autofiction. Mais le goût pour l'écriture s'est développé petit à petit. J'ai commencé par écrire des poèmes en prose vers 18 ans, 18 ou 20 ans. Des poèmes un peu maniérés, même très très précieux. J'étais dans ma grande période mallarméenne, c'était beaucoup moins bien que Mallarmé, mais enfin, il y avait cette espèce de préciosité, parfois un peu hermétique. Maintenant, quand je les relis, enfin, ça ne m'arrive pas tous les jours, voilà, je vois bien que c'était un péché de jeunesse. Et ensuite, petit à petit, je suis allée vers le roman, mais très progressivement, puisque j'ai eu pendant longtemps une névrose assez handicapante qui consistait dans le fait que je ne pouvais pas dépasser le cadre d'une page. C'est-à-dire que quand j'avais écrit, quand j'arrivais en bas d'une page, format A4, il fallait que le texte soit fini. C'est-à-dire que j'étais un peu comme un peintre devant sa toile, sauf que moi c'était donc cette feuille de papier et une fascination pour ce cadre en fait, qui me bordait d'une certaine façon, et il fallait que le texte tienne dans ce rectangle. Donc c'était assez difficile de tourner la page pour arriver à la page 2 et à la page 3, et j'ai trouvé une astuce au fond qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui en l'occurrence a été libératrice pour moi. Je me suis dit peut-être que il faut que tu te donnes une contrainte. Et j'ai trouvé cette méthode alphabétique qui m'a permis d'écrire mes 4 premiers romans, qui vont de la lettre A à la lettre Z. Donc le premier s'appelle Index, et qui va de la lettre A à la lettre F. C'est-à-dire que j'ai commencé, premier chapitre, Abri, et j'ai suivi les titres de chapitre avec les lettres A, B, C. Et de savoir que après la lettre A, il y avait la lettre B, ça m'a suffi pour tourner la page.
Est-ce que vous pensez que la vocation existe, en tout cas? Est-ce que vous avez le sentiment que très vite vous vous êtes dit, je voudrais être écrivaine?
Non, moi je n'ai pas du tout senti la vocation au sens étymologique où je me serais sentie appelée par une grâce littéraire quelconque. Moi quand j'étais petite, je voulais être coiffeuse et je me suis jamais dit que je voulais être écrivain, non jamais. Mais j'avais envie d'écrire, mais bon, par ailleurs j'ai fait des études de lettres. J'ai passé les concours de l'enseignement parce que le seul moyen de rester en contact toujours avec la littérature qui était ma passion, bien c'était de faire des études de lettres et ensuite d'enseigner. Donc je suis heureuse d'avoir pu à la fois gagner ma vie et vivre toujours dans l'environnement de la littérature.
Avec cette idée aussi de transmettre votre goût des mots, votre goût de la littérature à travers cette première profession que vous avez exercée?
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Qu'on retrouve aussi, je trouve, dans toute la série de livres que vous avez écrits autour des mots. Je pense notamment à cet ouvrage « Quelques-uns » où vous rendez hommage à, je crois qu'il y a 11 mots à qui vous rendez hommage, que ce soit « oui »,« je ne sais quoi »,« on », »,« chagrin », de mémoire. Oui. Alors, comment est-ce que vous avez fait ce choix des mots? Comment est-ce qu'on élit comme ça un mot et qu'on lui dédie un texte?
D'abord, ce recueil de textes, quelques-uns, c'est un livre que j'ai écrit à un moment où je n'arrivais plus à écrire de romans. C'était après Philippe, donc après à la fois le livre Philippe et la mort de mon fils Philippe. Il se trouve que j'avais déjà écrit 3 romans avant ce moment-là. Et quand j'ai voulu revenir au roman, c'était impossible, c'est-à-dire que le roman traditionnel tel que je l'écrivais avant m'a paru soudain complètement creux, frivole. Je n'arrivais plus du tout à inventer des histoires. C'était fini. C'était une inspiration, si je puis dire, et une joie que je n'avais plus du tout. Et je me suis dit, comment renouer avec l'écriture? Sinon, en rendant hommage aux mots, c'est vrai que j'ai une passion et j'ai un amour pour les mots, et là aussi avec le besoin et le désir d'aller voir dessous, d'aller creuser comme si les mots étaient avaient sédimenté et que donc l'étymologie, les changements de sens, la polysémie, tout ce qu'un mot peut abriter et receler comme trésor. Et donc voilà, j'ai choisi des mots très courants. Je ne voulais surtout pas prendre des mots rares ou précieux, mais ce sont des mots qui sont précieux d'une autre façon, ce sont des mots vraiment de tous les jours. Et par exemple le mot oui, qui est sans doute un des mots les plus courants qu'on emploie tous plusieurs fois par jour, qui a d'ailleurs servi à définir la langue d'oc et la langue d'oïle. Donc c'est vraiment un mot fondateur. Et bon, j'ai fait appel à la fois à mes souvenirs de lecture, notamment ces fameuses pièces de Racine. Il y a plusieurs pièces de Racine qui commencent par oui. Donc cette entrée tout de suite dans l'histoire avec un mot comme celui-là, qui est un mot qui ouvre, qui est aussi un mot de désir, un mot d'affirmation, mais aussi de doute. Enfin, c'est un mot très, très riche et très, très amoureux aussi, très plein de désir, plein d'ouverture.
Il y a toujours dans ces textes qui sont plus du côté des mots, mais aussi dans vos romans, énormément de moi je vois ça aussi comme des hommages. Alors ce sont des citations ou des allusions que vous faites à des écrivains que vous aimez et que vous lisez, relisez. Donc j'associais ça aussi un petit peu à cette transmission, que ce soit à travers ce métier d'enseignante que vous avez exercé et ce métier d'écrivaine aussi, où vous aimez citer vos grands maîtres.
Oui, c'est vrai. Je me sens habitée par tous ces mots, par ces phrases. J'en ai retenu beaucoup. J'ai appris des textes par cœur, des poèmes, j'ai des bribes, des aphorismes, des maximes, oui, beaucoup de vers qui me reviennent. Et quand j'écris, j'utilise un mot, par exemple, et tout d'un coup m'arrive une citation, oui, ou du moins parfois ça n'est pas très clair, parfois c'est flou. Je me dis, tiens, mais ce mot-là, où est-ce que je l'ai vu, où est-ce que je l'ai entendu, dans quelle phrase? Je vais chercher, souvent je trouve, pas toujours. Donc je dirais que la citation, pour moi, ça n'est pas pour faire assaut de culture ou d'érudition, ça fait vraiment partie de mes de ma mémoire. Enfin, ça fait partie de moi, comme on a des souvenirs d'enfance, comme on a des souvenirs de son chien ou d'un arbre près de sa maison ou de ses parents ou d'un moment de sa vie. Eh bien, moi, j'ai des souvenirs de lecture. J'ai des souvenirs très précis. Et donc, pourquoi est-ce que je ne rappellerai pas ces souvenirs quand j'écris? Voilà, parce que je le dis parce que parfois ça m'est reproché. On dit oui, voilà, il y a beaucoup de citations, beaucoup de références. C'est comme si c'était une façon un peu élitiste de concevoir l'écriture. Mais pour moi, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est naturel.
Est-ce qu'il y aurait des noms qui vous viendraient à l'esprit, comme des parrains et des marraines qui seraient là auprès de vous, enfin des parrains et des marraines écrivains, et qui sont vraiment très régulièrement auprès de vous quand vous écrivez, qui reviennent régulièrement?
Oh ben oui, alors dans les grands classiques, disons, il y a Racine. Là, vraiment, j'ai des tirades entières de Racine dans la tête, et puis voilà, j'ai toujours une grande émotion, les textes de Racine. Il y a La Rochefoucauld pour l'ironie, justement, pour la lucidité terrible, parce que là aussi, aller voir dessous, aller voir sous les apparences, pour moi, c'est un maître. Alors, bon, dans les poètes, j'ai une affection particulière pour Verlaine et Baudelaire. Et sinon, dans le roman, disons que ceux auxquels je reviens beaucoup, c'est surtout Proust, Flaubert, Céline. Voilà, ce sont des auteurs qui m'accompagnent, enfin, auxquels je reviens, auxquels je retourne.
Alors, en 1991, c'est donc la date de votre premier roman dont vous avez commencé à parler, Index. Donc, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur le livre. Donc, vous avez déjà commencé à expliquer le principe du chapitrage d'Index. On peut peut-être rappeler l'histoire de ce livre. C'est donc l'histoire de Claire, une architecte, qui achète par hasard un livre qui s'appelle Index et qui est écrit par un certain Camille Laurence.
Elle découvre une.
Ah, moi j'avais compris que c'était plutôt un, quand même on sait pas. Il y a un doute. En tout cas, Claire découvre stupéfaite dans ce roman sa propre histoire avec la révélation d'un secret très intime que nul n'est vraiment censé connaître à part quelques personnes. Alors, peut-être pour commencer, déjà, ce ou cette Camille Laurence que l'on trouve dans le roman, c'est donc le nom que vous vous êtes choisi, puisque c'est un pseudonyme. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'avoir un pseudonyme pour écrire?
En fait, ça s'est fait à l'envers, c'est-à-dire que j'ai eu l'idée de ce roman, qui était une mise en abîme, où donc un personnage féminin, Claire Després, achetait un livre qui s'appelait Index de Camille Laurence. Et en commençant à lire ce livre, elle se rendait compte que ce livre racontait sa propre vie, et notamment un épisode de sa vie qu'elle croyait secret, justement, qu'elle croyait avoir pu dissimuler à tout le monde ou presque. Et soudain, elle lit, elle se rend compte que voilà, tous les détails de ce secret sont étalés, et évidemment, elle veut savoir qui est cet auteur qui connaît si bien son secret. Donc, si j'avais mis un prénom masculin ou un prénom féminin, ça lui enlevait la moitié des hypothèses. Donc là, j'avais envie qu'elle ne puisse pas savoir si c'était un homme ou une femme qui avait écrit ce livre. Déjà, ça élargissait beaucoup la recherche. Donc, j'ai cherché un prénom mixte. Il se trouve que ça a été Camille. Camille, un petit peu, parce que c'est le prénom d'une des petites filles modèles dans La Comtesse de Ségur, que j'ai beaucoup lu. Moi-même, je m'appelle Laurence, c'est mon prénom dans la vie. Et donc, j'ai associé ce prénom mixte à mon prénom, dont j'ai modifié l'orthographe pour qu'il ait plus l'air d'un nom de famille, d'un patronyme. Voilà, donc c'est vraiment pour les besoins de ce roman, pour les besoins de l'écriture, que j'ai pris un pseudonyme. Je n'avais pas spécialement envie de prendre un pseudonyme. En tout cas, ce n'était pas, en tout cas consciemment, pour me cacher. J'avais pas spécialement envie de dissimuler à ma famille ou que sais-je que j'écrivais. Mais ensuite, j'ai gardé ce pseudonyme, puisque c'était Camille Laurence qui avait écrit Index.
Ça vous permettait pas ce nom de Camille Laurence, ça vous permettait pas des choses que vous n'auriez pas pu écrire sous votre vrai nom. C'était pas ça le.
Non, ça n'était pas ça. Non, alors il y avait sans doute et d'ailleurs ça a assez bien fonctionné l'idée de ne pas révéler justement si moi-même l'auteur de ce premier roman j'étais un homme ou une femme, sur la question de l'identité sexuelle qui est d'ailleurs à l'œuvre dans le roman et dans plusieurs de mes romans. Et ça a bien fonctionné puisque il y a eu au moins deux articles, enfin je me souviens l'un notamment à la parution de ce roman. J'étais donc inconnue, on ne m'avait jamais vue en photo, jamais vue à la télévision bien sûr. Et il y a eu un article disant là nous ne savons rien de cet auteur, mais la maîtrise fait penser qu'il s'agit d'un homme. Je vous laisse apprécier.
De manière générale, Camille Laurence, comment naissent vos livres? Est-ce que ça vient d'une idée, d'un rêve, d'une situation que vous avez déjà vécue? Il y a bien un point de départ.
J'aurais du mal à identifier un point de départ, en fait. C'est une espèce de chaos mental. Oui, il y a forcément un point de départ, une histoire, alors qui peut être personnelle, qui est souvent un point de départ personnel, mais qui peut être une observation que j'ai faite. Par exemple, celle que vous croyez, là, mon dernier roman, en fait, puisque ensuite j'ai écrit La petite danseuse de 14 ans, qui n'est pas un roman. C'est le point de départ, c'était les relations sur Facebook. Enfin, je m'intéressais aux rapports amoureux via les réseaux sociaux. Et ensuite, j'ai construit une histoire à partir d'expériences personnelles et d'observations que j'ai pu faire, d'interviews des amis grands utilisateurs de Facebook que j'ai pu faire. Et voilà. Mais sinon, c'est plutôt comme un magma d'idées, de phrases, de choses qui tournent dans une espèce de bulle, et au bout d'un long moment, il en sort une histoire.
Sauf que vous connaissez la fin.
Oui.
Parce que c'est quand même ce qui vous est assez caractéristique. Oui. Vous commencez presque par la fin, quelque part.
Oui, alors je pense que c'est un héritage des romans policiers, puisque j'ai appris que beaucoup d'auteurs de romans policiers commencent par écrire la fin, ce qui paraît logique. En fait, hein, quand il y a une enquête, de savoir où on va, comment ça va se terminer, qui a fait le coup. C'est la même chose. Je ne peux vraiment commencer à écrire physiquement que si j'ai la fin du roman. Oui. Alors la fin, ça peut être une phrase. Ça peut être un paragraphe, ça peut être un chapitre, ça peut même être juste une idée, mais enfin quand même, en général, j'ai une phrase. Ça peut changer en cours de route, mais c'est assez peu arrivé. C'est arrivé une fois que la fin soit modifiée par des circonstances en cours d'écriture. Mais le plus souvent, je vais vers cette phrase. C'est-à-dire que c'est comme mon point d'arrivée. Si vous voulez, j'ai une ligne de vol et je sais où je vais arriver. Alors, je ne sais pas par quel circuit je vais y arriver, mais je sais où je vais. Et pour moi, c'est très important. Sans doute que c'est pour conjurer une angoisse qui serait l'angoisse de ne pas arriver à finir. Donc là, comme je commence par finir, je suis sûre que ça va aller.
Il doit quand même y avoir des choses qui vous obsèdent aussi pendant tout ce processus de fabrication. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la psychologie des personnages? Est-ce que c'est la succession des événements? Est-ce que c'est, je crois que la structure est très très importante. Donc quand vous êtes hanté par vos livres, en tout cas au moment où vous les écrivez, qu'est-ce qui vous travaille le plus?
Oui, moi c'est vraiment la structure, c'est la forme. C'est, je dirais, presque l'architecture du roman. Comment ce roman va tenir debout? Comment je vais l'organiser? Et c'est le plus long. Et je ne peux pas commencer sans avoir le plan, alors qu'il n'est pas un plan page par page, c'est pas un plan où je définis les personnages, la psychologie, même l'histoire, mais c'est une façon de donner une forme à ce que j'ai globalement envie de dire. Donc c'est très différent d'un roman à l'autre. Et je cherche pour chaque livre, pour chaque idée de livre, une forme spécifique à ce livre-là. Donc il y a aussi, bon, le style va aussi avec la forme, mais je par exemple, dans ces bras-là, je n'ai pas pu commencer tant que je n'ai pas eu la forme. J'avais l'idée de faire un portrait de femme à travers tous les hommes de sa vie, alors pas forcément dans le rapport amoureux, mais tous les hommes qu'elle a croisés dans sa vie forment son portrait dans la relation qu'elle a eue avec eux. Et bon, je me disais, mais comment je vais les faire apparaître et je me suis souvenue, là, pour montrer la façon dont ça peut s'élaborer, je me suis souvenue d'un film de Duvivier qui s'appelle Carnet de bal. C'était une femme qui retrouve un carnet de bal. À l'époque, les femmes avaient un petit carnet quand elles allaient au bal et elles notaient le nom des cavaliers qui voulaient danser avec elles. Donc, première danse, deuxième danse, voilà. Et donc, c'est une femme dans ce film qui retrouve son carnet de bal et qui décide de partir à la recherche de ces hommes dont elle a perdu la trace depuis longtemps. Et je me suis dit, au fond, c'est ce qu'il faut que je fasse moi aussi un carnet de bal, une sorte d'inventaire, si je puis dire, avec des noms d'hommes. Enfin, donc là, en l'occurrence, ce ne sont pas des noms, ce sont des fonctions masculines. Hein, donc, voilà, il y a le père, le mari, le professeur, bon, etc. Le fils. Et une fois que j'ai eu trouvé ce système, je pourrais dire, cette structure par chapitre, qui sont à chaque fois des fonctions masculines par rapport à la narratrice, ça a été très très facile. Alors j'ai commencé par la fin, puisque j'ai commencé par écrire le dernier chapitre, le destinataire, enfin voilà, pour écrire vers un horizon masculin qui était donc le destinataire. Et ensuite, ça a été très très simple parce que j'avais cette forme. Et c'est vrai pour tous mes romans, dont les formes sont à chaque fois différentes. Par exemple, un roman qui s'appelle Ni toi ni moi, que j'ai écrit à partir de l'idée d'une correspondance par mail entre un cinéaste et une narratrice qui a écrit un livre que ce cinéaste veut adapter. Eh bien, voilà, je voulais qu'il y ait un échange entre un cinéaste et une romancière. Je ne savais pas comment faire et j'ai inventé complètement cette correspondance. Et dès que j'ai eu trouvé cette forme, avec tout ce que permet la correspondance par mail, la correspondance épistolaire, donc là, le roman épistolaire, donc là aussi m'a beaucoup aidé. C'est toujours aussi des références littéraires que j'adapte au monde dans lequel j'habite, voilà, où maintenant on correspond par mail. Et ça peut prendre du temps, mais une fois que j'ai cette forme, c'est beaucoup plus facile.
Il y a peut-être aussi un art qui vous accompagne, alors peut-être vous accompagne-t-il aussi dans l'écriture, c'est la danse. Alors je pense à la danse parce que vous parliez du carnet de bal et je sais que là il y a une danse en particulier, vous êtes une grande danseuse, mais il y a une danse que vous pouvez convoquer peut-être régulièrement dans l'écriture de vos livres, c'est la valse, parce que vous aimez bien, je sais pas si on peut dire ça comme ça, faire valser le lecteur.
Oui, c'est vrai.
Le perdre, l'étourdir.
Oui, oui, ça c'est d'abord j'aime la valse et j'aime je je le dis à ma grande honte, mais je le dis quand même, j'aime les valses de Vienne, vous savez, le Beau Danube bleu, j'aime entendre
cette musique-là.
C'est le romantisme. Et puis, bon, j'imagine mes grands-mères, arrière-grands-mères qui valsaient au bal et qui m'ont un petit peu raconté. Et j'aime surtout dans la valse, pour l'avoir moi-même un peu pratiquée, j'aime le vertige. Et c'est ce que je voudrais produire dans mes livres. Je voudrais que le lecteur soit un peu étourdi, ne sache pas exactement où il est, où est la réalité, où est la fiction, qu'il n'ait pas une assise solide, qu'il ne vienne pas dans mes livres en se disant « bon là, je vais avoir des vérités, je vais avoir des informations solides, de la documentation, des choses stables. » Parce que je vis moi-même dans un univers qui est beaucoup plus flou et vertigineux, où je ne sais jamais précisément où est la vérité, qu'est-ce que le réel, voilà. Et donc c'est l'effet que dans l'idéal je voudrais produire aussi chez le lecteur. Bah, une autre image que j'aime bien utiliser, c'est l'image du labyrinthe. Oui, j'aime bien perdre un peu le lecteur, oui. Et moi-même, je peux me perdre aussi dans les méandres d'une histoire et ne pas forcément vouloir qu'elle soit complètement résolue. Par exemple, l'index, il y a donc cette énigme du qui a écrit le roman, hein, avec le secret. Et il y a une résolution dans le roman, mais c'est le lecteur qui doit la trouver. C'est ça que ça m'intéresse que vous ayez dit que vous pensiez que c'était un Camille Laurence.
J'en étais même sûre.
Parce que
bon. Je vais le relire dans la foulée.
Non, mais c'est parce qu'il y a plusieurs hypothèses. Il y a plusieurs possibilités qui sont toutes dans le roman.
On en parlera un petit peu plus tard toutes les deux alors. L'autre figure aussi qu'on peut convoquer, donc il y a celle du vertige, le labyrinthe, mais il y a aussi le kaléidoscope. Et je crois que c'est un mot que vous aimez beaucoup. Et où à nouveau la réalité est fragmentée, donc ça va avec cette idée du labyrinthe, mais finalement en fonction de l'endroit où vous vous placez, vous n'allez pas voir exactement la même chose. Donc cette image alors de ces petits morceaux de vert coloré qui pourrait représenter votre œuvre.
Oui, parce que le kaléidoscope, c'est un jouet qui est complètement démodé maintenant, mais que j'aime beaucoup. C'est Gide qui en parle dans Si le grain ne meurt, c'était un de ses jouets favoris. Et donc, ce sont des fragments de verre coloré qui sont reflétés par un miroir. Et donc, quand on bouge le kaléidoscope, les fragments s'agencent différemment et on a à chaque fois une figure différente, très belle, puisque kaléidoscope, c'est la belle forme. Et il me semble que je construis mes romans de cette façon-là, au fond, avec plus ou moins toujours les mêmes fragments, surtout les autofictions, plus ou moins avec les mêmes fragments autobiographiques ou les biographèmes, comme dirait Barthes, et simplement ils sont transformés, ils entrent dans des formes différentes, mais à partir des mêmes du même réel au fond.
Parce qu'il y a des thèmes que l'on retrouve d'un roman à l'autre, il y a des liens qui sont faits. Bah, évidemment, chaque roman peut être lu comme un objet unique, mais quand on les lit comme ça, d'autant plus dans la foulée, tout à coup, il y a des échos. Et alors, si on essayait de mettre tous ces petits morceaux de verre et de les regarder comme ça, peut-être comme un vitrail cette fois-ci, est-ce qu'on aurait une sorte de portrait de Camille Laurence?
Certainement.
Avec quelques obsessions qui reviennent un petit peu régulièrement?
Oui, je pense qu'il y aurait un portrait assez fidèle avec des obsessions qui seraient le perdu, ce qui est perdu, le deuil, le manque, le désir, hein, toutes ces oui, ces obsessions, on peut dire que j'ai, qui de livre en livre sont élaborées différemment.
Parce que ce sont très souvent des personnages féminins. Enfin, il y a des hommes qui apparaissent dans vos romans, mais il y a toujours une figure de femme qui est là et qui traverse et qui porte le roman. Donc, est-ce que ces femmes portent à chaque fois, parlent de vous ?
Oui, parce que de plus, ce sont souvent des personnages féminins qui écrivent, qui sont romancières ou qui ont envie d'écrire ou qui sont aux prises avec l'écriture d'une façon ou d'une autre, parce que j'aime bien réfléchir à ma pratique d'écriture. Au fond, ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement l'écriture, mais analyser ou comprendre ce que ça signifie pour moi qu'écrire, et ce que je cherche dans l'écriture, et ce qui me manque dans l'écriture. Donc ça permet à ces personnages de développer les pensées que je peux avoir, et qui en soi ne sont pas tellement romanesques. Là, je pourrais écrire peut-être Le Frège, d'ailleurs, un essai sur ma conception de l'écriture et ce que c'est pour moi que la littérature. Mais comme j'écris des romans, je distille un peu ces impressions, ces émotions d'écriture dans le texte lui-même.
Avec cette idée de l'écriture de soi, ce qui nous amène à ce terme d'autofiction, alors un terme qui a pu être assez dénigré, on en avait déjà parlé un petit peu. Alors il y a une définition que vous donnez de l'autofiction que j'ai trouvée dans un article avec lequel j'espère que vous êtes toujours d'accord, qui date de 2011. Vous dites que l'autofiction, donc vous préférez ce terme d'écriture de soi à celui d'autofiction, mais vous dites aussi ceci: ce qui m'intéresse dans ce mot, c'est la réunion de l'autobiographie et de la fiction. Cela souligne que l'autobiographie est toujours une fiction. Dès qu'on utilise des mots pour raconter sa vie, on fait entrer de l'imaginaire, la mémoire infidèle, des procédés narratifs tels que la condensation, l'ellipse. Oui. Quelques années plus tard, vous dites toujours la même chose.
Bien ouais, sûr, c'est d'ailleurs l'idée de Serge Dubrovski, parce que c'est lui qui a inventer le mot autofiction, cette idée que c'est l'autobiographie moderne, au fond. Par rapport à l'autobiographie traditionnelle, qui serait la remémoration de toute une vie, en général une autobiographie, on l'écrit quand on a déjà un certain âge, et on se retourne sur son passé, et depuis l'enfance, on reprend, on reconstruit toute sa vie, ou la majeure partie de sa vie. Et on sait bien, malgré les professions de foi de Rousseau, d'authenticité, que tout cela n'est pas possible, qu'il n'y a pas d'authenticité, qu'il n'y a pas une vérité solide, absolue, qu'on pourrait dire sur soi et qui mettrait un point final à l'histoire, que c'est beaucoup plus complexe que cela, que il y a de l'inconscient, il y a de l'imaginaire, il y a de la reconstruction par la mémoire, il y a de la reconstruction par ce que les autres nous ont dit de notre propre vie. Et donc, c'est clairement une fiction. Donc, autofiction, c'est d'abord cela, c'est bien insister sur ce mélange de fiction, même quand on prétend en parler de soi.
Pourquoi, selon vous, c'est un terme qui a été dénigré, l'autofiction ? C'est associé à quoi ?
Parce que c'est associé, d'une part, je le crois de plus en plus, c'est associé au féminin, parce que si vous regardez bien, les auteurs d'autofiction qui sont cités sont en général des femmes, et il y a beaucoup d'auteurs d'autofiction, à mon sens, purement et clairement d'autofiction, comme Philippe Solers ou Emmanuel Carrère, pour lesquels on n'emploie jamais ce terme. En revanche, pour les femmes, c'est systématique. Alors pourquoi ? Ben parce que les femmes, n'est-ce pas, vont être amenées à déballer leurs petites histoires, leurs petits secrets. Il y a là une minoration de l'écriture des femmes qui, je pense, est scandaleuse dans ce terme d'autofiction. Ça a été beaucoup repris par la presse, et encore maintenant, alors on dit l'autofiction est passée de mode, voilà, c'était nombriliste, c'était narcissique, et encore maintenant, je le vois, parce que je suis assez sensible à ça, et donc je repère ce mot dans les journaux, et c'est encore à chaque fois en mauvaise part. C'est ah oui, non, mais moi, ce que je fais, ce n'est pas de l'autofiction. Enfin, beaucoup d'auteurs prennent la peine de dire cela, même quand tout le roman est manifestement autobiographique. C'est le repoussoir total. Et je pense pourtant que c'est extrêmement intéressant comme notion.
Alors, dans vos écrits, il y en a un qui est à part, que vous avez déjà mentionné au début de cet entretien, qui est Philippe, ce texte que vous avez écrit en 95. Donc, Philippe raconte la naissance et la mort de votre enfant, Philippe. Par rapport justement à votre œuvre, quelle place a-t-il exactement, alors pas par rapport à cette histoire d'autofiction, mais peut-être par rapport au fait de parler en disant « je », parce que je crois que c'est à travers ce texte, Philippe, que vous avez utilisé pour la première fois le « je ».
Oui, c'est vrai, j'avais déjà écrit 3 romans, qui étaient des romans, je dirais, classiques, traditionnels, avec donc des histoires inventées, c'était d'ailleurs souvent des histoires policières, des intrigues, des énigmes, des enquêtes avec un détective. Donc, non, j'étais dans cette lignée romanesque dont je ne pensais pas devoir jamais sortir. D'ailleurs, ça me plaisait beaucoup. Je trouvais ça très ludique. Et ça l'était. Et il se trouve qu'après avoir écrit ce texte, que je n'avais pas prévu, bien entendu, d'écrire, où je disais « je » pour la première fois, il se trouve qu'ensuite, je n'ai pas pu revenir au roman classique. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comme si ce « je », tout d'un coup, je m'en étais emparée en me disant « mais voilà, il y a tellement de secrets, d'énigmes dans ce « je », tellement de secrets sur la vie, sur l'existence, sur la mienne, sur mon rapport au monde. Parce que le jeu n'est pas, comme on le dit souvent à propos de l'autofiction, ça n'est pas juste un petit moi nombriliste qui raconte sa vie. Un jeu est dans le monde, il est en mouvement dans le monde. Le monde et ce jeu interagissent. Et c'est ça que j'ai découvert, si je puis dire, en écrivant ce texte autobiographique. Là, vraiment, c'est un petit moment, un petit fragment de vie et de mort. Et avant, ça n'était pas possible. Avant, je ne pouvais pas employer le « je », parce que j'ai été élevée dans une famille protestante où, donc justement, il y avait à la fois beaucoup de secrets de famille et puis une espèce de puritanisme. On ne parle pas de soi, on ne raconte pas ces histoires devant tout le monde. Et donc, j'étais restée sur cette phrase de Pascal, la fameuse phrase « le moi est haïssable ». Donc jamais, au grand jamais, je n'aurais eu l'idée de parler de moi dans un roman, directement.
Vous dites d'ailleurs dans Philippe, tout écrivain a une phrase impossible pendant longtemps. Pour moi, la phrase impossible a commencé par « je ». Hier encore, je récitais en exemple « J'ai accouché le 7 février ». Quand je relis les pages écrites dans ce livre, c'est l'impression d'un immense effort qui domine. Jusqu'ici, j'ai toujours trouvé impensable, ou pour mieux dire impraticable, d'écrire « je » dans un texte destiné à être publié, rendu public. « Je » est pour moi le pronom de l'intimité, il n'a sa place que dans les lettres d'amour. J'écris pour dire « je t'aime ». Je t'aime, Philippe.
Oui, oui, mais c'est la première fois que je... Oui, que j'ai écrit une sorte de lettres à la lettre, oui, que j'ai publié ensuite. Il est vrai, malgré tout, que quand j'ai écrit ce texte, je ne pensais pas le publier. C'est-à-dire que c'était même pas des phrases articulées, d'ailleurs. J'ai écrit ce texte à partir de petites notes que j'ai prises dès le lendemain de la mort de Philippe, sur des bouts de papier, comme ça, des feuilles volantes, des morceaux de phrases, vraiment. Et c'est seulement ensuite, en parlant avec mon éditeur, qui était donc Paul Tchaïkovski-Laurence à l'époque, que j'ai décidé, parce que c'est lui qui me l'a suggéré, de publier ce texte au sens étymologique, donc de le rendre public. Donc ce « je » est devenu public, mais quand je l'ai écrit, je ne pensais pas du tout à un quelconque lecteur, même si beaucoup m'ont écrit ensuite.
Alors, justement, le fait d'écrire à la première personne ou le fait de parler de soi, ce n'est pas toujours une affaire non plus très simple par rapport au lecteur et par rapport à la réception qu'il peut y avoir de vos livres. Je crois que vous avez quand même, je pense, un bon petit paquet de lettres d'insultes, de procès. Votre ex-mari vous a fait un procès. Donc, pas si simple, finalement, ce mode d'écriture. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez être plus prudente? Je ne sais pas si le mot est adéquat, mais est-ce que vous positionnez un petit peu différemment? Est-ce que vous essayez de vous protéger, peut-être, des retours que vous avez pu avoir parfois sur beaucoup de vos œuvres?
Il se trouve que j'ai évolué sur cette question. Je n'aurais pas exactement la même position qu'il y a quelques années. Alors, il est vrai que j'ai eu un procès pour atteinte à la vie privée de la part de mon ex-mari. Procès qu'il a perdu, il faut quand même le souligner, parce que c'est important. Oui, c'est évident que la question de l'autobiographie, de l'autofiction de manière générale, pose problème, puisque on évolue dans ce que Philippe Lejeune appelait les parties communes. Vous savez, Philippe Lejeune, le spécialiste de l'autobiographie, disait nous sommes copropriétaires de nos vies. Donc, effectivement, nous sommes copropriétaires de nos vies, donc les copropriétaires peuvent trouver qu'on se sert un peu trop des parties communes, qu'il y a des parties privées, il y a des parties qui devraient rester secrètes. Je suis d'accord avec ça. Je ne pense pas, contrairement à ce que j'entends beaucoup dire, je ne pense pas qu'un écrivain a le droit de tout dire sur tout le monde, qu'il a tous les droits. Je crois que... Simplement, je ne m'opposerai jamais à ce que quiconque écrive quoi que ce soit. Je suis pour la liberté totale, mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose qu'on écrive tout ce qui passe par la tête au sujet de n'importe qui. Notamment, je suis malgré tout assez sensible au secret, au fait que si quelqu'un ne veut pas qu'on parle de certains secrets, je n'en parlerai pas. Mais je veux dire, on ne peut pas écrire non plus en se disant sans cesse « est-ce que je ne vais faire de mal à personne ?» Parce que, par définition, la littérature est blessante et nous atteint, nous touche. Donc, ça n'est pas une question que je me pose quand j'écris. Malgré tout, je me pose la question de l'atteinte morale, c'est-à-dire que je crois qu'un écrivain doit avoir une éthique personnelle qui fait que il assume le fait de dire ou de ne pas dire telle chose, mais tout est pesé comme dans un trébuchet, vraiment. Moi, je pèse mes mots, et il m'arrive de plus en plus de penser à quelques lecteurs privilégiés, c'est sûr, ce qui ne m'arrivait pas avant. Je pense par exemple à ma fille, ça m'arrive de ne pas écrire certaines phrases parce que je n'ai pas envie qu'elle les lise. Mais voilà, ça c'est une des choses qui peut-être ont évolué pour moi.
Et lorsque l'on pense à la suite, Camille Laurence, alors peut-être les prochains livres, mais aussi, est-ce que vous pourriez vous intéresser à de nouveaux objets de création ? J'ai envie de revenir à la danse parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'écrivain dansant ? Parce que je crois que vous avez un projet sur lequel vous travaillez en ce moment où vous mêlez ces deux arts, l'écriture et la danse. Alors, êtes-vous une écrivaine dansante ?
J'aimerais bien. Non, là, je l'ai été. C'est un projet qui s'appelle Concordance, qui donc met en présence un ou une, en l'occurrence, une chorégraphe et une écrivaine, moi-même. Donc, la chorégraphe, c'est Joanne Layton. Et nous avons, ça vient de se terminer là, mais ça reprendra, je pense qu'il y aura une autre tournée l'année prochaine. Mais là, ça vient de se terminer, nous avons dansé à la maison Georges Sand à Nohant. Et c'est donc un travail commun. Donc j'ai écrit des textes, donc nous sommes rencontrés, nous avons décidé d'un thème commun qui était la marche et la répétition, parce que moi j'ai écrit un essai sur la répétition, et Joanne Layton travaille depuis plusieurs années sur la marche, comment représenter la marche dans la danse, elle travaille sur les songlines, les chemins de piste des aborigènes qui se guidaient, qui traçaient leur chemin avec des chants. Et donc voilà, on s'est rencontrés sur ce thème et nous avons élaboré construit un spectacle avec donc sa chorégraphie, mes textes et nous dansons toutes les deux. Oui, c'est ça la particularité. C'est vrai, c'est que l'écrivain en l'occurrence ne se contente pas d'écrire les textes pour le chorégraphe, mais il est partie prenante complètement et donc je me suis remise à la danse. Enfin, c'est pas la danse classique que je pratiquais quand j'étais enfant, mais maintenant, je suis une fanatique de danse contemporaine. Je vais voir beaucoup de spectacles. Pour moi, c'est l'art vivant qui est le plus émouvant. Ça peut paraître paradoxal puisque, a priori, il n'y a pas tellement de mots dans cet art-là, mais peut-être justement, c'est cette présence du corps, ces émotions qui passent par le corps, c'est une sorte d'équivalent charnel de ce que je peux éprouver quand je lis et quand j'écris. Donc ça peut me toucher aux larmes, un spectacle de danse.
Je vous propose qu'on se quitte, Camille Laurent, sur ces dernières paroles. Et je vous remercie beaucoup.
Merci à
Merci.
Vous.
C'était la masterclass de Camille Laurence avec Céline Duchesnay. Attaché de production Nathalie Lempereur, coordination Arnaud Laporte, réalisation Clotilde Pivin.